Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Inquiétude à New York alors que son budget est sabré par la crise sanitaire. La première ville des États-Unis croule sous les dettes et la recherche d'une solution financière fait débat.
Oui, c'est une dette de 92 milliards de dollars, autant que son budget annuel. Voilà le ver qui ronge la grosse pomme depuis des mois. Début septembre, le maire Bill de Blasio a demandé à l'État de New York l'autorisation d'emprunter 5 milliards de dollars, sans quoi il menace de licencier 22 000 employés municipaux. Il faut dire que les difficultés de New York sont spectaculaires en proportion du poids de la ville dans le pays. Le métro a déjà réduit son activité, des enseignants sont licenciés, un quart des recettes fiscales s'est envolé. Le problème, c'est que non seulement la crise rend difficile toute solution par des hausses d'impôts, mais aussi que l'affaire fait ressurgir le souvenir d'une situation dramatique, la faillite de New York en 1975.
Une faillite évitée de justesse et la situation était très similaire à aujourd'hui ?
Oui, parce que comme Bill de Blasio, aujourd'hui, le maire démocrate de l'époque, Abraham Beam, avait fait exploser les emplois municipaux et le budget. Et quand il avait demandé 1 milliard de dollars au Congrès à Washington, voici ce qu'un sénateur de son propre camp lui avait répondu.
Depuis le début, je vous entends sans cesse réclamer que le gouvernement renfloue votre faillite. Et puis vous répétez que vous vous arrangerez avec les banques. Autrement dit, ne vous souciez pas des gens dans la ville, on va calmer les banques. J'ai déjà entendu ce genre de choses dans ma jeunesse. Ça n'a jamais été ma tasse de thé, et encore moins maintenant.
Voilà, à l'époque, un consortium bancaro-municipal avait finalement permis d'obtenir des emprunts plus sains, mais aujourd'hui, la marge de manœuvre est faible pour Bill de Blasio, accusé de gaspillage par le gouverneur de l'État de New York, voire de clientélisme par le New York Times, qui lui conseille tous deux de commencer par une cure d'austérité, tout comme d'ailleurs l'autorité qui contrôle les finances de New York depuis 1975 demande aussi au maire 1 milliard de dollars d'économie.
Pourtant, d'autres villes américaines ont réussi à surmonter leur propre faillite.
Oui, une soixantaine de ces villes ont été placées sous le chapitre 9 des faillites depuis la loi des années 50 qui les y autorise. La plus récente est Detroit en 2013. Motortown, donc englué dans plus de 18 milliards de dollars de dettes à l'époque pour 2 milliards de budget, qui s'en était tiré en un peu plus d'un an avec une solution originale, une restructuration classique, les créanciers renonçant parfois aux trois quarts de leur dû, mais aussi l'accord des retraités municipaux, des syndicats de travailleurs et le concours financier de fondations locales comme Ford. On avait même un temps envisagé de vendre des tableaux de l'Institute of Arts. Finalement, les bijoux de famille sont restés sur place. Mais à New York, en tout cas, le consensus sera difficile. Les démocrates les plus à gauche veulent des taxes spécifiques sur les revenus des 119 résidents milliardaires, alors que, face à l'hémorragie d'habitants en ce moment, le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, affiche au contraire la séduction et leur propose même de leur payer un verre et de leur faire la cuisine. À l'époque, on se rappelle, c'était la baisse de la fiscalité qui avait transformé la ville de loser en winner, disait un spécialiste de la question 5 ans après, en 82.
Ils ont été à deux doigts de se noyer et ils ont réussi à faire ce pas énorme en adaptant la fiscalité commerciale. Nous, on a repris un building qui n'avait qu'un seul employé, maintenant on en a 2000. Et pendant le pic de la construction, c'était 4000. Alors la grande gagnante, c'est bien la ville. Et je vais même vous dire, s'ils n'avaient pas voté la baisse de taxes, je n'aurais jamais construit cet immeuble.
On a reconnu l'inimitable Donald Trump. À l'inverse, certaines villes ont parié sur la financiarisation et la bourse pour se développer.
Et oui, deux notamment ont créé des fonds cotés en bourse et ouverts aux habitants et aux investisseurs extérieurs. Celui de Nashville en 2013, la ville de Johnny Cash en pleine croissance, appuyée sur un groupe d'entreprises locales. Mais le fonds a été clôturé en 2018 pour cause de rendement trop faible, 5% seulement, la moitié du S&P 500 de l'époque qui était sa cible. Et puis dès 2006, l'Arabie Saoudite aussi avait expérimenté avec KAEC, la King Abdullah Economic City, ville acronyme dont 30% sont cotés à la bourse de Riyad. Alors là, il n'y a pas de maire mais un PDG. Et puis à la place des taxes sur l'immobilier, ce sont des frais de service. 2 millions d'habitants étaient prévus pour 2035, mais ils étaient seulement 7 000 il y a deux ans. Et l'action lancée à plus de 25$ est descendue à 10$. Alors ville mirage ou mirage de la bourse, entre les deux, avec ses shareholders city depuis 20 ans, et bien l'Inde a parié sur l'actionnariat comme levier de développement urbain à grande échelle, des villes vendues comme des sociétés par action aux paysans locaux, mais pour beaucoup aujourd'hui fantômes avant d'être nés. Par exemple, 10 000 âmes seulement dans la première, Lavassa, qui devait atteindre 300 000 habitants cette année, des magasins aux stores baissés, la criminalité de rue et les détritus. Bref, New York 1975, funeste présage d'ailleurs dans cette ville. Le milliardaire indien à son origine avait embauché l'architecte d'une partie de la gare et de l'aéroport de LaGuardia à New York.
Merci beaucoup Xavier Martinet, votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast, et on vous retrouve demain.